Bienvenue dans ce troisième épisode de Québec au pluriel. Il a été enregistré dans l'enceinte de l'Écomusée du Fier Monde à Montréal, car il s'y tient jusqu'au 22 octobre une exposition intitulée « Créer le pouvoir populaire » qui retrace l'héritage de Salvador Allende au Québec. Et vous allez l'entendre, elle fait un écho très particulier à l'histoire de mon invité du jour. Je remercie d'ailleurs le musée d'avoir eu la gentillesse de nous accueillir. C'était la première fois que j'enregistrais dans ce type de lieu, et étant encore en processus d'apprentissage de la confection d'un balado, le son n'est pas toujours optimal, mais j'espère que ça ne vous empêchera pas d'être captivé par l'entrevue qui va suivre. Je vous conseille d'ailleurs de rester attentif jusqu'au bout, car une petite surprise vous attend à la toute fin de l'épisode. Bonne écoute!
Je m'appelle Alexia Boyer et je suis d'origine française et québécoise. Dans Québec au pluriel, chaque semaine, je parle d'identité avec un Québécois ou une Québécoise.
Salut,
ça va bien?
Oui, très bien, oui.
On se trouve à l'Écomusée du Fier Monde. D'habitude, j'enregistre toujours dans un lieu qui fait écho à l'histoire de la personne, un endroit qui a un sens pour elle. Et donc, j'aimerais, avant qu'on visite l'exposition, juste que tu te présentes et que tu expliques pourquoi est-ce qu'on est à l'Écomusée du Fier Monde aujourd'hui.
Eh bien, mon nom est Nathalie Brigitte Bustos. Je suis une Montréalaise de 46 ans. Mes parents sont nés au Chili, ma sœur aussi. Et ils ont dû quitter le Chili en 73 pour mon père et en 74 pour ma mère parce qu'ils sont devenus des réfugiés politiques à la suite du coup d'État contre Salvador Allende. Donc, l'exposition ici, c'est sur l'héritage d'Allende en général, mais particulièrement à Montréal, je pense. Puis, j'ai voulu venir avant, puis après, je me suis dit non, je vais découvrir l'exposition avec toi.
Super. Eh bien, on s'en va découvrir l'exposition tout de suite.
On y va. Mon père travaillait pour la sécurité d'Allende.
OK.
Donc, quand il y a eu le coup d'État, il y avait ma mère qui était en train d'accoucher de ma sœur.
Okay.
Le jour même.
Ma sœur est née le 11 septembre.
73, ouais.
Ah oui.
Puis, mon père, lui, a dû se sauver parce qu'il était recherché pour être tué.
Oui, parce
qu'il était considéré comme quelqu'un proche du gouvernement puis qui supportait les idées nationalistes et tout ça.
J'ai vu que... Du parti. Dès le 11 septembre, il y a eu des emprisonnements. Il y a le Pinochet et son entourage, ils sont tout de suite passés à l'action.
Ah oui, ça a été vraiment très rapide, puis très organisé. Puis ça a fait en sorte que, tu sais, comme le bouche à oreille s'est passé pour que mon père, justement, sache que lui, il fallait qu'il s'en aille. Puis ça a pris quelques jours avant qu'il puisse aller voir ma mère à l'hôpital.
Okay.
et ma sœur. Mais il est vraiment allé là comme dans les films là avec un chapeau puis une fausse moustache pour comme juste la voir. Puis il dit à ma mère, il faut que je me sauve, je sais pas qu'est-ce qui va arriver. Puis c'est la dernière fois que se sont vus avant quelques semaines. Pendant tout ce temps-là, ben ma mère, elle est restée quelques jours à l'hôpital. Puis après ça, elle est allée vivre chez sa belle-mère, donc ma grand-mère paternelle,
okay,
avec ma sœur. Et sans savoir où était son mari, sans savoir qu'est-ce qui s'était... Est-ce qu'il était encore vivant?
Ouais.
Elle avait aucune nouvelle. Donc, ça a été pour elle un stress épouvantable parce qu'on voyait dans les nouvelles que les gens disparaissaient. Il y avait il y a énormément de morts, mais énormément de gens disparus, donc on considère morts aujourd'hui. Mais au Chili, il y a un cimetière qui est le cimetière central où est-ce que, justement, il y a toute une portion qui est faite aux disparus du coup d'État. Donc, c'est un terrain vague où est-ce qu'il y a des croix, des drapeaux, des photos attachées. Il n'y a pas de corps d'enterré, mais ça a été vraiment comme... C'est épouvantable. Il y a eu plus de disparus et de morts dans le 11 septembre 73 que dans le 11 septembre 2001, dont on parle encore énormément parce que c'est plus récent dans l'histoire. Mais il y a des gens qui cherchent encore les leurs,
oui,
leurs
frères,
leurs sœurs.
Oui, parce qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup de gens à qui on ne sait pas vraiment ce qui est arrivé, c'est ça?
Oui. Il y a eu des tortures, il y a eu des emprisonnements, il y a eu des mises à mort, il y a eu des toutes sortes de choses. Mais les gens qui étaient comme disparus, leur corps n'a jamais été retrouvé. Donc, j'imagine que c'est comme difficile de faire le deuil de ça, puis d'accepter aussi dans quelles conditions ces gens-là ont pu mourir, parce qu'il y a eu des tortures publicisées, là, vraiment, de gens pour envoyer des messages et tout. Donc, c'est assez... c'est violent, puis c'est choquant quand on est passé d'un gouvernement comme lui qui était... qui était très dans le dialogue, qui était très pacifiste, qui mettait en garde contre les multinationales, contre les pays qui venaient investir dans la, les grands pays qui venaient investir au Chili mm-hmm. pour s'approprier les ressources naturelles. Puis là, ben, tu passes du jour au lendemain à quelqu'un placé là par la CIA qui est rentré par la violence, par des armes qui ont été fournies par les États-Unis. Donc, c'est vraiment un autre pays qui a organisé ça. Mm-hmm. Puis là, ben, les gens qui restent sur place et qui sont pas impliqués politiquement ou qui ont pas été vocaux à propos de leurs opinions politiques, ben, eux, ils sont corrects. Mais il y a eu comme une grosse scission dans le pays où il y a des gens qui sont pour le coup d'État et contre le coup d'État. Puis encore aujourd'hui, les gens sont ouvertement pro-Pinochet. Et ça, c'est vraiment choquant. Comme moi, je suis allée au Chili la première fois en 2004. Et on avait pris l'avion avec mon mari, puis on était allé à Arica, qui est la ville la plus au nord, parce qu'on avait l'intention de redescendre comme ça. Puis mon mari était assis à côté d'un député chilien. Puis ils se sont mis à discuter, puis là, le député lui posait des questions, puis mon mari aussi. Mon mari parle à tout le monde. Donc ils discutent, puis à un moment donné, mon mari met dans la discussion que ma sœur est née le jour du coup d'État. Puis le député a corrigé mon mari, puis fait « pas le coup d'État, le jour de la Renaissance ».
Ah ouais.
Donc, un député élu face à un étranger dit ouvertement ça. Donc, ça, c'est de savoir. Puis ça, c'était en 2004. Mais aujourd'hui, dès qu'il y a question d'élection, dès qu'il y a question de passer des lois, d'avoir des mouvements populaires, ce clivage-là ressort énormément. Dans ma propre famille, je sais que j'ai des gens pro-Pinochet, pro-Allende, alors que ça a eu un impact direct sur moi, ma sœur et ma mère. Mais ça, faut faire avec. Faut comme les gens ont pas souhaité le malheur de ma famille. Les gens voient que le pays s'est développé d'une certaine façon, puis ils attribuent ça au coup d'État. Donc ils se disent, hey, on serait jamais là si on n'avait pas eu le coup d'État, si les choses n'avaient pas changé, on serait encore pauvre, on serait un pays du tiers monde si Allende était resté au pouvoir. Donc tu sais, c'est que des suppositions, mais c'est quand même vraiment choquant quand on entend ça.
Mais est-ce que les gens sont éduqués à propos de ce qui s'est passé? Est-ce qu'à l'école les gens apprennent l'histoire?
Oui. Moi, quand je suis allée au Chili, j'ai posé des questions à mes cousines, mes cousins, pour savoir comment que c'était enseigné. Puis, dépendamment dans quel genre d'école que t'es inscrite, ben, l'histoire a été racontée, qu'il y a eu un coup d'État, qu'Allende était là, que Pinochet est rentré. Mais après ça, les conséquences, les façons, ben, c'est là que c'est peut-être un peu brodé selon les opinions de droite ou de gauche de l'institution à laquelle t'étudies. Moi, c'est toujours surprenant de voir que t'sais, dans un même pays, il peut y avoir des opinions si tranchées où les gens se côtoient, les voisins se côtoient, la famille se côtoie en pensant ça, t'sais, en se disant que ah oui, c'est bien, qu'il fallait que ça arrive, puis tout ça, mais non, mais il y a personne qui mérite de mourir pour avancer quelque chose. Et on peut pas torturer les gens pour faire avancer des idéologies. Il y a d'autres façons, ça s'est fait à d'autres places. Puis, tu sais, c'est souvent l'évolution est arrivée dans des pays par la violence ou par la guerre ou la guerre civile parce qu'on voulait renverser quelque chose de négatif. Mm-hmm. Mais là, c'est quelque chose, c'est qu'on peut considérer de positif qui a été renversé par quelque chose de négatif. Ouais. Donc, c'est là que ça devient difficile.
On a avancé dans l'exposition et on a regardé ensemble les extraits d'un film qui contient des images d'archives du Chili dans les années 70. Qu'est-ce que ça te fait de voir ça?
Ça me fait beaucoup de peine, tout le temps. Ouais. Tout le temps, ça me... C'est, là, ça va mieux par rapport à ça parce que Mais tu sais, j'ai tellement grandi longtemps en me disant « C'est là que j'aurais dû grandir, c'est là que j'aurais dû vivre. »
J'imagine que ce film, tu l'avais déjà vu.
Oui. Oui, c'est ça. Mes parents sont réfugiés politiques, puis mon père s'est fait un peu mettre dehors de son pays. D'ailleurs, il a dû quitter pour sauver sa vie, sauver sa peau, puis après ça, s'arranger pour que sa femme puis sa fille viennent le rejoindre. Donc, ma mère, elle a suivi son mari. Puis mes parents se sont séparés quand j'étais vraiment jeune, mais j'ai quand même grandi. Mon père venait une fois de temps en temps, puis tout ça, mais...
Ils vivaient encore au Québec?
Les deux, ils ont grandi. Mon père est décédé maintenant, là, mais ouais. Les deux, ils sont restés à Montréal. Oui, oui. Puis, on a toujours grandi, ma sœur et moi, avec un parent qui voulait plus rien savoir du Chili, puis un parent qui, elle, pleure, s'ennuie de sa mère, s'ennuie de ses sœurs, ses frères. Puis, ma sœur et moi, on n'a pas grandi avec des cousines, des cousins, des grands-parents. On n'a pas connu ça. Fait que nos Noëls, c'était à quatre. nos fêtes de famille, ben c'est des amis puis tout ça, puis tu sais, mais ça nous a quand même toujours manqué beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis ça, c'est ça. Fait que quand je vois des vidéos que je lis, il y a des livres que je suis incapable de lire, là où je me terre, tout le monde me dit « Hey, j'ai pensé à toi en lisant le livre », puis je serais incapable de lire ce livre-là, je peux pas. Parce que c'est comme, j'ai beau vouloir faire la paix, puis c'est ce que j'ai fait quand je suis retournée la dernière fois au Chili, avec le fait que j'ai pas grandi là, puis que j'ai pas... j'ai vécu ici, parce que ça nous a apporté d'autres choses de vivre ici. Fait que, mais ça m'arrache le cœur, c'est vraiment ça. Parce que je me rappelle de ma mère, que, à quel point c'était difficile pour elle. Puis, ben c'est ça. Fait que tous ces films-là, je les ai vus, je les regarde. J'y vais toute seule quand il y a quelque chose qui sort, parce que je sais que je vais être...
difficile.
Ah, vraiment, vraiment, vraiment. Puis c'est... Puis ça, c'est rien, là. Qu'est-ce qu'on voit en plus? Puis après, ben c'est la violence, c'est les divisions, les morts, les... C'est ça. Fait que c'est vraiment beaucoup d'essayer de se dire, bon, ben, j'ai pas grandi là, tant mieux, parce que la raison pourquoi mon père a sorti ma mère et ma soeur de là, puis qu'ils se sont réfugiés au Canada, c'est pour sauver leur peau, puis leur assurer qu'ils étaient corrects. Puis, tu sais, pendant des années, ils pouvaient pas revenir, là, ils pouvaient pas retourner au Chili, même s'ils l'avaient voulu, parce qu'ils auraient été mis à mort, tu sais, ça aurait été vraiment ça. Fait que c'est ça. Fait que c'est vraiment tout plein de un mélange de plein d'émotions, puis de plein d'amertume, de regret, de colère, de tout ça. Fait que c'est comme... Mais bon. Mon père, il a travaillé à la construction du stade olympique.
Ah ouais?
Ouais. Fait que ça s'est passé probablement exactement comme ça. Tu sais, à se faire dire que tu vas devoir promener tes affaires, tu devrais amener telle chose, tel vêtement... C'est quoi ton nom? C'est quoi tes affaires? Puis...
Oui, parce que là, juste pour expliquer à nos auditeurs auditrices,
ouais.
On vient de visionner un court passage d'un film qui s'appelle « Il n'y a pas d'oubli » et on voit un homme chilien qui est en train de se faire embaucher dans une compagnie canadienne. On voit qu'il comprend l'anglais, mais il ne le parle pas vraiment. Il explique que sa femme, ses deux enfants sont encore au Chili, puis il n'a pas de... Il n'a pas de vêtements pour travailler parce qu'on imagine qu'il a fui. Il a juste ça sur le dos. Mm-hmm. C'est la seule chose qu'il possède. Tu penses que c'est quelque chose que ton père a vécu aussi, d'arriver là, de devoir se trouver une job?
Ah oui, c'est sûr que c'est ça qui est arrivé. Lui, mon père, quand il est arrivé du Mexique, il s'est mis à travailler tout de suite sur les chantiers de construction parce qu'il cherchait énormément de gens. T'sais, il y avait plein de choses qui étaient en développement à Montréal à l'époque parce que les Jeux olympiques s'en venaient.
Ouais.
Donc, je pense qu'il y avait des portions du métro qui restaient à finir. Il y avait le stade olympique qui était à construire. Puis, donc, c'est sûr que c'est par d'autres amis chiliens qui ont dit « Viens, je vais t'amener » parce qu'ils cherchent tout le temps des gens puis tout ça. Mais c'est vrai que tu arrives puis que tu as juste ton manteau, tu as juste le linge sur ton dos. Quand il est arrivé au Mexique, c'était ça. Puis, mais les trucs au Mexique, ça a été quelques vêtements prêtés. Donc, il y avait une très petite valise quand il s'est envenu au Canada après. Mais après, c'est de tout devoir reprendre. Tu sais, c'est le travail, l'appartement, de te loger, te nourrir. Ça fait partie de la réalité de beaucoup, beaucoup de réfugiés puis d'immigrants. Tu sais.
Puis en plus, il parlait très peu français.
Il comprenait, un peu comme le monsieur, il comprenait, mais il parlait un petit peu moins.
Donc ça veut dire que tu peux pas faire valoir tes droits, tu peux pas même
tu peux pas
demander
négocier.
Des explications.
Non.
Donc là, on vient de s'asseoir dans le Café Esperanto. Après avoir terminé notre visite, qu'est-ce que t'en retiens
Mais en fait, j'en retiens que la blessure est encore vive au sein du peuple chilien. J'en retiens que ces 50 ans se sont écoulés, puis il y a beaucoup encore d'incompréhension, il y a beaucoup de les gens sont encore choqués par comment ça s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé, tout ça. Mais tout d'abord, merci d'avoir pensé à venir ici. Ça, c'était vraiment intéressant. Puis c'était, puis tu sais, il y avait quelques photos de gens. Puis il y a une photo entre autres par là où ce que j'avais l'impression que c'était moi qui était sur la photo. Tu sais, de, je voyais des gens qui ressemblaient, des vidéos, des gens qui parlaient. Je trouvais qu'ils ressemblaient à ma mère. Je trouvais que ma sœur était là aussi, mon père. Puis ça, ça a été vraiment quelque chose qui m'avait marqué la première fois que je suis allée au Chili. De voir des gens qui nous ressemblaient.
Ah ouais?
Ouais. Je voyais quelqu'un dans la rue, puis je disais à mon mari, puis je disais, regarde comme il ressemble à mon père. Ah, regarde, on dirait ma soeur. Ah, regarde, on dirait ma mère. Puis j'arrêtais pas de le répéter, puis à un moment donné, mon mari m'a dit, je te rassure tout de suite, ça va arriver souvent. Vous ressemblez vraiment, il y a vraiment des traits typiquement chiliens, notre menton, notre nez, des choses comme ça. Donc là, d'avoir vu ces photos-là, ben, t'sais, ça m'a apporté des sourires malgré la tristesse, malgré le de me mettre dans la peau de mes parents, puis de voir qu'est-ce qu'eux, ils ont traversé, puis comment ça s'est passé pour eux, pour nos grands-mères qui sont restées là, puis que leurs enfants étaient partis au loin alors qu'ils avaient à peine 22, 23 ans. Donc tout ça, c'est ça. Fait que ça m'a permis de juste me connecter encore davantage à mon histoire.
Toi, tu n'es pas retournée, je veux dire, tu n'es pas allée même pour la première fois au Chili avant 2004, d'après ce que tu me disais. Donc, c'est quand même 14 ans après la fin de la dictature. Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle tu as attendu autant d'années?
Oui, ben, il y a longtemps, mes parents ne pouvaient pas y aller parce que c'était dangereux pour eux. Ensuite, quand la dictature était tombée, ben, ma mère était seule avec ma soeur et moi. Donc, c'est encore cher aller au Chili, mais à l'époque, c'était encore plus cher d'y aller. Puis elle avait juste pas les moyens de nous amener. Puis après ça, ça a été dans ma vie d'adulte un combat constant de est-ce que je vais avoir de la peine, qu'est-ce que ça va faire si je vais au Chili. Tu sais, j'avais souvent des c'est ça, je grandissais souvent avec beaucoup de regrets de pas avoir grandi là, de pas être tout à fait chilienne parce que moi j'étais pas née là. Fait que c'est ça, fait que longtemps après dans ma vie d'adulte, c'était de me demander. Puis ma grand-mère maternelle, elle a vécu jusqu'à l'âge de 102 ans. Puis mais elle avait de l'Alzheimer donc depuis très très longtemps. Et il y a un moment donné, j'ai eu un déclic, puis j'ai fait comme faudrait vraiment que j'aille la voir avant qu'elle meure. Même si elle me connaît pas, même si elle sait pas je suis qui, je veux juste comme toucher ma grand-mère puis me dire ah, j'ai vu ma grand-mère. Donc c'est ça, fait que c'est ce déclic-là s'est passé comme en 2004. Puis avec mon mari est moitié suisse, moitié espagnol, donc lui déjà avec les vacances, c'est d'aller voir son père et sa mère. Puis là, on allait en Suisse, on allait en Espagne, on allait en Suisse, on allait en Espagne. Puis à un moment donné, je pense même que c'est lui qui a fait comme hey, mais tu voudrais pas qu'on aille au Chili une fois pour voir ta famille à toi, parce qu'on va toujours voir la mienne et tout. Puis j'ai eu peur, j'ai pleuré, j'ai dit « Ah non, je sais pas qu'est-ce que ça va faire si je vais. » Et finalement, on a pris la décision d'y aller, puis c'était un voyage aussi pour découvrir le pays comme tel. Parce que toute ma famille à moi est à Santiago.
D'accord.
Des deux côtés. Donc là, puis il y a des gens à qui on parlait pas à l'époque, parce que mon père avait pas reconnecté avec sa famille à lui. Donc je connaissais personne du côté de mon père, donc j'avais juste la famille de ma mère à aller voir. Ses frères et sœurs à elle, puis c'est mes cousines de ce côté-là, mes cousins. Et ben c'est ça. Fait qu'en 2004, on est allé, puis... ça a été un mélange de tellement d'émotions que quand je suis revenue, on est resté 3 semaines. Quand je suis revenue, j'étais comme habitée d'autant de sentiments de c'est le plus beau pays du monde à mon cœur puis à mes yeux. J'ai l'impression que j'étais chez moi. Moi, quand je parle espagnol, j'ai l'impression que je parle du cœur. J'aime ça. Quand je parle espagnol, j'aime ça pouvoir parler espagnol. Je suis fière de parler espagnol. Je fais des fautes parce que je le pratique pas assez, puis tout ça. Mais plus ça va, plus ça revient, tu sais. Mais il y a eu toute une partie après mon retour, je te dirais un bon mois et demi, où j'ai été bouleversée. Puis j'étais triste et à l'envers. Puis à me dire, justement, là, cette stupeur-là de qu'est-ce qui s'est passé, puis... Pourquoi j'ai pas été là? Pourquoi j'ai pas pu connaître ma grand-mère alors qu'elle aurait pu savoir qui je suis? Puis tout ça. Fait qu'il y a eu beaucoup d'amertume.
Quand je t'ai proposé de venir enregistrer ici, je me doutais que ça allait te toucher parce que je pense que tous les Chiliens et Chiliennes qui sont venus vivre à la suite du coup d'État au Québec, ça va leur parler. Mais j'ignorais que ta famille était aussi touchée par ce qui s'est passé. Et je me demandais déjà, et je me demande encore plus, comment on parle à une petite fille pour lui expliquer ce qui s'est passé, pour lui expliquer l'histoire de sa famille.
Mais ma mère, ben c'est ça, c'est comme mon père nous le racontait d'une façon que c'était les Chiliens, c'est des cons, c'est un peu barriéré, ils avanceront, ils iront jamais nulle part. La seule chose qui est bonne au Chili, c'est la nourriture. Mon père nous parlait comme ça du Chili. Puis ma mère, elle, c'était tout le contraire. Ma mère, elle nous parlait en nous disant, la seule chose que je peux vous léguer, c'est le Chili. C'est la seule chose que je peux vous léguer, c'est votre culture, c'est votre héritage, ça va être ça. Ça va être de savoir d'où vous venez, puis comment ça s'est passé. Donc ma mère, souvent, tu sais, c'est... Puis, pauvre ma sœur, parce que ma sœur, comme elle est née le 11 septembre, ben, ma mère souvent elle pleurait à la fête de ma sœur parce que c'était comme la journée où sa vie a basculé. Puis là, maintenant, elle pleure plus le 11 septembre, ma mère. Ça va. Mais quand même, ma sœur a eu beaucoup d'anniversaires où elle voyait ma mère pleurer. Fait que ça, tu sais, ça a un peu dégoûté ma sœur de ses propres anniversaires. Puis de se faire comme, ah, j'ai pas envie de voir maman pleurer. Puis elle en veut pas à ma mère parce qu'elle sait très bien que c'est plus gros qu'elle. Puis tout ça. Mais tu sais, fait qu'il y avait tout ça. Mais ma mère, elle nous l'expliquait en nous disant tout ce qu'elle avait laissé derrière, tu sais, sa mère, son père, son... Quand mon grand-père est décédé puis que ma mère était ici, pas d'argent, sans pouvoir aller aux funérailles de son père, je me souviens qu'elle était vraiment à l'envers. Puis après, quand moi je suis allée au Chili en 2004, ben en fait j'ai passé 2005 parce que c'était pendant le temps des fêtes. Puis quand la dernière journée où j'allais quitter, je suis allée voir ma grand-mère. Puis ma grand-mère est tombée malade, elle était comme un peu en convulsion et tout ça. Donc j'ai juste embrassé. Puis là il s'en allait à l'hôpital avec elle. Fait que j'ai pu lui dire bye. Et je suis revenue à Montréal. Puis ma mère quittait une semaine plus tard pour aller au Chili pour passer 3 mois. Puis elle a passé ces 3 mois-là tous les jours à l'hôpital avec sa mère, en espérant un peu que sa mère meure pour que ma mère soit là quand ma grand-mère allait mourir. Puis elle est revenue, puis ma grand-mère est encore vivante, mais malade toujours. Fait que ça pouvait toujours se passer d'une journée à l'autre. Puis quand elle est arrivée, je m'en souviens, je suis allée la chercher à l'aéroport, puis elle débarquait, puis je l'ai vue tellement fatiguée, puis j'ai vu ma mère tellement... tous ses traits étaient creusés, puis tout, mais c'était pas des traits creusés de fatigue, c'était des traits creusés de remords, de regrets, de tristesse, de se dire, là, ma mère va mourir, puis je suis repartie, parce qu'elle travaillait à l'époque, il fallait qu'elle reprenne le travail, puis elle disait, je suis repartie, puis ma mère va mourir, puis je serai pas là, tu sais, puis tout ça. Fait que ça a été beaucoup ça, me parler de l'histoire du Chili, ça a été tout ce qu'elle a laissé derrière. Puis tu sais, quand je te parlais tout à l'heure que mes parents avaient deux visions différentes du Chili, mon père m'avait même déjà dit, je comprends pas pourquoi tu tiens tellement à y aller. Je comprends pas pourquoi tu veux y aller. Ta mère a fait de la bouffe chilienne, on a des fruits chiliens ici, c'est pas besoin d'y aller. Puis j'étais là, voyons, papa, comment tu réfléchis? C'est sûr que je veux savoir, toute notre famille est là-bas. Bof, ouais. Mais tu sais, c'est ça, cette ambiguïté-là entre les deux, c'est de trouver notre place là-dedans, puis de se dire comment on y arrive. T'sais.
Puis toi, ton rapport au Chili, est-ce qu'il a beaucoup évolué justement? En face des deux discours que tu avais?
Oui, oui, oui. Mais moi, plus je vieillis, plus je suis chilienne, en fait. Je dis souvent ça. Je me rappelle qu'à l'école, au primaire, j'avais fait une entrevue. On était plein d'enfants issus de l'immigration, puis tout ça. Puis c'était Radio-Canada qui nous avait fait une entrevue radio. Puis, je sais pas ce que les autres avaient dit, mais moi, je me rappelle que j'avais fait mon entrevue. Puis quand j'avais entendu le résultat à la radio, j'avais été vraiment déçue de moi parce que j'avais dit, moi, je suis québécoise, je parle français, c'est ici que j'ai grandi, c'est mon pays, puis tout ça. Puis je me rappelle, j'étais petite, j'avais 12, 13 ans, je me souviens plus quel âge que j'avais, mais je me rappelle m'être sentie coupable de faire, mais voyons, qu'est-ce que t'es allée dire là? T'es chilienne, pourquoi t'en as même pas parlé? T'as à peine effleuré ça, puis... Puis là, ben, je le sais maintenant à 46 ans que c'est parce que je voulais être sûre que de rentrer dans le moule. Je voulais pas qu'on me dénigre parce que je venais d'ailleurs. Puis tu sais, je comprends pourquoi j'ai répondu ça, mais à l'époque, je le savais pas. Mais là, moi, plus je vieillis, plus je revendique ça, plus je rappelle aux gens que je suis chilienne, que tu sais, ça fait partie de mon identité, ça fait partie de ma personnalité. Je sais que j'ai des réactions, je sais que j'ai des réflexions parce que je suis chilienne et je suis influencée, puis je grandis dans la culture québécoise. Je contribue à la, à la culture québécoise parce que je travaille dans le milieu, puis j'ai fait des films qui sont importants dans l'histoire du Québec. J'ai fait un film sur Polytechnique qui était un féminicide qui a eu lieu en 89 ici. J'ai fait un film qui s'appelle Paul à Québec qui raconte l'histoire d'une famille québécoise qui accompagne le patriarche à la fin de ses jours. Ça peut pas être plus québécois que Paul à Québec. Fait que tu sais, je contribue à la culture québécoise, mais il y a toujours ma couleur en arrière, puis il y a toujours mon statut de chilienne qui est en arrière, puis ça fait juste comme j'espère que mes nièces, en me voyant moi être fière d'être chilienne, ben qu'elles retiennent un peu de ça, puis qu'elles se disent c'est vrai, moi dans le fond aussi j'ai du sang chilien qui coule dans mes veines, puis il faudrait peut-être que je m'intéresse un peu à ça.
Et tes nièces, tu penses qu'elles je sais pas quel âge elles ont, mais elles se sentent chiliennes?
Oui, il y a certaines plus que d'autres. J'en ai trois. La plus jeune a 21, puis la plus vieille a 27. Puis, tu sais, fait que certaines plus que d'autres, mais je pense que ça va avec le temps. Mais, tu sais, elles sont contentes de le dire, que leur mère est chilienne. Elles sont contentes de quand elles arrivent à placer deux mots espagnols, elles l'ont pas vraiment appris. Fait qu'elles l'apprennent sur le tard. Mais elles aiment la nourriture, elles aiment partager ça, puis elles ont des habitudes qu'elles ont, qu'elles réalisent pas qu'elles ont des habitudes chiliennes, tu sais.
D'accord. Comme quoi, par
exemple? Ben, en fait, moi, ça m'avait frappé quand j'étais allée au Chili la première fois. Moi, ma mère, à chaque fois qu'on avait une réunion de famille, une fête ou quoi que ce soit, elle prenait un verre, puis elle remplissait le verre de serviettes en papier. Puis ça faisait des longs tours, puis il y en avait deux, trois, quatre, puis des fois, elle alternait des couleurs et tout. Puis moi, j'étais toujours convaincue que c'est ma mère qui faisait ça.
OK.
Puis la première fois que je suis allée au Chili, je suis rentrée dans toutes les maisons de mes oncles et mes tantes, puis quand il y avait un souper, ils sortaient ça. Dans les restaurants, il y avait ça. Puis c'est stupide, mais de juste reconnecter puis de faire comme, attends, c'est chilien de prendre les serviettes puis de les mettre dans le verre, puis tout ça, c'est pas ma mère qui fait ça, c'est parce qu'on est chilien qu'on fait ça, tu sais. Fait qu'il y a tous ces petits gestes-là de pensée, des habitudes, des superstitions, tu sais, comme le soir à Noël, au jour de l'an, moi, le 31 décembre, j'ai un bol de riz, j'ai un bol de sel, j'ai un fruit, parce que puis j'ai une assiette qui est posée à table pour un invité qui n'existe pas, parce que ma mère faisait ça, mais c'est pas ma mère qui fait ça, c'est qu'au Chili, on fait ça parce qu'on veut commencer l'année, le riz va nous apporter la chance, le sel va nous apporter l'argent, puis l'assiette de plus que tu mets à table, c'est pour que si au courant de l'année tu as besoin, parce que toi, quelqu'un pourrait cogner à ta porte, il a besoin de manger, tu vas pouvoir l'asseoir à ta table, tu lui as fait une place, ben nous, durant l'année, si on a un besoin, quelqu'un va être là pour nous, tu sais, d'avoir des billets de papier sur nous, quand minuit sonne, au lieu d'avoir de la monnaie, c'est pour éviter qu'on fasse les fonds de tiroir pour durant l'année, fait qu'il y a plein de petites habitudes comme ça, qui sont pas ma mère, qui sont chiliennes. Donc ça fait en sorte que, tu sais, mes nièces, elles ont des billets de papier sur elles le 31 décembre, tu sais, puis mon mari le fait, mon beau-frère le fait, parce qu'ils ont comme embrassé notre culture avec nous. Puis
maintenant, j'aimerais te poser ma toute dernière question, qui est la question signature un peu de ce balado. Si tu devais définir ta culture personnelle, citer des objets culturels qui sont vraiment ta culture en tant que personne, qu'est-ce que tu citerais?
Des objets précis, ben on en a parlé tantôt, c'est les trucs en cuivre. Comme toute bonne latina, j'ai mon drapeau chilien sur ma voiture, fait que les gens savent que je suis chilienne. Mais après ça, les objets culturels, ça devient autant les relations que t'as avec ta famille. Tu sais, je sais qu'il y en a qui sont moins fortunés que moi. Moi, j'ai un excellent lien avec ma sœur et ma mère. Ma famille, c'est ce qui compte plus que tout au monde. Puis c'est ma mère qui nous a enseigné ça. Puis justement, ma mère, elle était là, on est passé par mille choses. Toi et ta sœur, vous allez vous entendre. Puis ça met comme... Ma sœur et moi, on a un lien qui est indestructible. On est soudés à jamais. Puis à tel point que ça a mis une pression sur mes nièces qui nous ont souvent dit... Là, moi, j'aurais pas une relation avec mes sœurs comme toi t'as avec ma tante ou comme toi t'as avec ma mère. Arrêtez de nous dire ça. Puis là, on était comme, ben voyons, on vous force pas à avoir... Mais tu sais, donc c'est ça qui est comme qui est chilien chez moi. Puis tu sais, c'est sûr que en grandissant ici, en vivant en français, mon père nous a demandé de bien écrire le français, de bien utiliser. Il a francisé notre nom. On s'appelle Bustos au lieu de Bustos parce qu'il voulait éviter que les gens fassent des fautes dans nos noms. Mais donc ça, c'est de perpétuer ça. Puis là, tu sais, en vieillissant, c'est d'écouter de la musique chilienne, c'est de me prévoir un voyage bientôt parce que je vais devoir amener les cendres de mon père au Chili. Il y a ce voyage-là qui va être extrêmement difficile, alors que celui du milieu s'était très bien passé, puis qui m'avait permis de mettre un baume sur bien des blessures. Là, je vais aller en ouvrir d'autres. Fait que, tu sais, c'est pour ça qu'il faut que je m'imprègne du Chili le plus possible pour que quand je vais faire ce voyage-là et aller reconduire mon père dans la tombe de ma grand-mère avec elle, ben, tu sais, ça va être comme de venir clore le chapitre de mon père qui, lui, son chapitre est pire que le mien, tu sais, c'est comme, ça a été difficile, puis, tu sais, je racontais plutôt que, tu sais, il n'a pas été un bon papa, mais il nous aimait, puis il nous aimait de tout son cœur, de tout son être, mais, tu sais, c'est en connaissant plus son histoire, en visitant des choses comme aujourd'hui, en lisant, que je peux faire des parallèles, à comprendre pourquoi mon père était la personne qu'il était. Tu sais, je l'aimerai tout le temps, mais d'aller le raccompagner pour son dernier repos au Chili, c'est une des seules choses qu'il m'a demandé quand il a su qu'il avait le cancer. Ça a été ça. Tu sais, puis là, il est chez moi, puis là, il va falloir que je fasse comme, waouh, il sera plus chez moi, il va être nulle part, il va être au Chili. Il faut qu'il continue de vivre en nous, en ma soeur, en mes nièces. Puis son caractère, il avait beau nier le Chili, le renier, puis les traiter d'imbéciles, il était foncièrement chilien. Mon père, dans mille facettes de sa personnalité qui était comme très complexe. Fait que c'est ça. Fait que ça va être de tout pallier à ça en continuant de m'approprier ma culture, d'être fière de qui je suis, d'où je viens. Puis de pouvoir m'assurer que dans tous les projets que je fais, il y ait un pan de moi qui soit représenté. T'sais. Fait que c'est ça qui est comme un devoir pour moi. T'sais, le dernier film qu'on a fait, c'est un tout petit film, c'est avec Mariana Madza, et elle est latino dans le film. Elle parle espagnol avec sa mère, elle a une amie qui parle espagnol. Il y a de la diversité partout dans ce film-là, puis personne n'en a parlé parce que on le fait comme il faut, en fait. Fait que ça, c'est comme ça a été, c'est un tout petit film qui s'appelle Maria. C'est tout petit, tout petit. Puis puis c'est drôle, c'est une comédie, vraiment des choses niaiseuses qui se passent dedans, puis c'est vraiment, vraiment drôle. Mais, et Mariana et moi, on était fiers du fait que deux Latinas avaient réussi à faire ça sous le nez de plein de gens qui n'ont pas noté ça. Fait qu'on était comme, on s'est fait un high five, puis on l'a réussi. On a réussi à mettre des Latinos de l'avant, puis sans que le monde ait l'impression qu'on était au crayon gras pour souligner la diversité, puis tout ça. T'sais. Fait que ça, c'est un autre sujet, la diversité, sur un autre podcast.
Mais écoute, merci beaucoup.
Merci à
on
toi.
On aura ri, on aura pleuré.
On aura pleuré, je m'excuse.
Et merci infiniment.
Merci beaucoup.
C'était Québec au pluriel, épisode 3, enregistré à l'écomusée du Fier Monde. Si cette conversation avec Nathalie Brigitte vous a donné envie de visiter l'exposition « Créer le pouvoir populaire sur l'héritage de Salvador Allende », je vous donne rendez-vous sur le compte Instagram Québec au pluriel pour tenter de remporter une paire de billets. Sinon, comme d'habitude, on se dit à samedi prochain dans Québec au pluriel.